France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
De la scène à l'écran et retour ce samedi dans Plan large avec Isabelle Prime et Jean-Claude Galota et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Les rapports entre les arséniques, théâtre et danse et le cinéma sont depuis 130 ans évidemment innombrables, mais ils ne sont jamais aussi réjouissants que quand ils s'emboîtent, s'interpénètrent et se fertilisent dans des allers-retours qui embrouillent les frontières pour proposer autre chose. On en parlait d'ailleurs encore récemment ici avec Mathieu Bauer. Cette autre chose se manifeste aujourd'hui dans deux œuvres libres et indécidables. La première est un long métrage, pas le premier, de son autrice, la cinéaste, monteuse, actrice et à l'occasion excellente flûtiste Isabelle Prime. Mais c'est le premier de ses films à sortir enfin en salle et il était temps qu'on découvre sa folle inventivité et son génie de l'entremêlement des images, des sons et des temps avec les loups qui, autour d'un château lozérien, celui de Saint-Alban, fait dialoguer la traque d'une bête mythique, celle du Gévaudan, et l'invention d'une pratique libératoire, la psychiatrie institutionnelle. Le tout filmé, ça tombait sous le sens, puisqu'il y a des loups dans une ménagerie, celle de Vert, que dirige Philippe Ken. La seconde est une pièce dansée, où un chorégraphe est pas des moindres, puisque c'est Jean-Claude Galota, paye en quelque sorte ses dettes, en rendant au cinéma quelque chose de ce qu'il lui a donné en 12 stations d'une très ancienne passion pour le 7e art, qui sont autant de chapitres d'un journal intime ou de lettres tout aussi intimes adressées à des cinéastes chéris. Ça s'appelle précisément Cher Cinéma, un spectacle en tournée depuis sa création au Théâtre de Caen en novembre dernier et qui, la semaine prochaine, fait escale au 104 à Paris. Isabelle Prime et Jean-Claude Galota sont nos invités aujourd'hui dans Plan large et on s'en réjouit. En fin d'émission, Sandra Onana nous dira en quoi chez le toujours fiévreux et intense Joaquin Phoenix, l'angoisse est un métier, à l'occasion de la parution du livre éponyme de Yael Sadat. Mais pour l'heure, on commence par célébrer un triomphe, à moins que ce ne soit que poudre aux yeux et sur les perruques.
Allô, 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 ce n'était qu'un gros loup. Allô, allô, gros loup, gros loup, mais quelle bande de fous. V'là tout, un loup, ce n'est qu'un loup. De loup, nous sommes venus à bout. Le loup n'est plus, et grâce à nous. Oh loup, bande de fous.
Le grand chasseur, de saluer son mérite, Votre Altesse. Vous n'avez pas vu la langue. Regardez. Allez-y. Qu'est-ce qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bonjour Isabelle Prime.
Bonjour.
On est en 1765 à la cour de Louis XV. On y célèbre le triomphe d'un chasseur du roi qui exhibe la dépouille empaillée d'un gigantesque loup. On s'amuse même à lui faire tirer la langue très caoutchouteuse. Là, on a entendu le son de la langue par le dauphin jusqu'à ce que des sortes de fémènes ne se dévoilent le poitrail pour dénoncer l'imposture, puisque des jeunes filles dont elles arborent le nom sur la poitrine sont encore victimes de la bête. On est donc à la fois dans le spectacle du pouvoir et dans sa dénonciation. Qu'est-ce qui vous intéressait, Isabelle Prime, dans ce mythe de la bête du Gévaudan et peut-être plus encore dans sa mise en scène ?
C'est particulièrement ce moment-là, en fait, de l'exhibition d'une fausse bête, parce que la bête qui a été naturalisée, empaillée à la cour, n'est pas la bête du Gévaudan. Et à ce moment-là, l'abandon d'une partie du monde et cette tension comme ça entre deux... Entre deux espaces, la cour et qui fabrique toutes ces représentations, l'histoire, c'est le moment des lumières. Le film commence avec la présentation du canard du Gévaudan, la mécanisation.
La canard de Vaucanson.
De Vaucanson, oh là là.
Ah, ça y est, ça commence déjà. D'ailleurs, je me suis demandé si ce début de film avec le fameux canard défécateur de Vaucanson, tout le monde s'extasie de ce qu'il ingère et surtout de ce qu'il excrète. Est-ce que c'était pas une image du cinéma, une sorte de mécanique à digérer le réel?
Bah oui, c'est ça, de le voir avaler et le ressortir, en plus petit ou en plus grand d'ailleurs. Enfin voilà. Et puis bien sûr le canard de Vaucanson parle de cette dévoration-là, mais complètement mécanique, maîtrisée, scientifique, donc qui éteint toutes les superstitions qu'il peut y avoir justement dans ces territoires qu'on a laissés à l'abandon. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était ces lumières, la cour, les perruques dont vous parliez, qui sont très artificielles dans le film, enfin exagérément, les visages sont exagérément poudrés. Et ce monde qui doit s'organiser pour enfin se débarrasser de ce qui le tue, cette bête. Et le film commence donc au moment de l'exhibition donc de cette fausse bête et où cette traque commence dans ce château. Le château de Saint-Alban.
Voilà, alors tout part d'un château pour vous. Alors c'est pas le château de Versailles où est censé se dérouler le début. Alors qu'est-ce que c'est que ce château de Saint-Alban ? Comment vous êtes tombé dessus déjà ?
C'est justement ce château, moi, qui m'a donné envie de... J'avais l'idée de faire un film autour de la bête du Gévaudan sans trop y croire. Et c'est au moment où je me suis, presque par hasard, où j'ai découvert que le château de Saint-Alban qu'on évoquait, qui est l'endroit d'où est partie la traque organisée par les paysans de la bête, 2 siècles plus tard... J'ai découvert, enfin c'est connu, c'est peu traité mais connu, que ce château de Saint-Alban est devenu un haut lieu de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois résistance à l'occupant, résistance aussi aux soins, enfin un moment on a repensé complètement, on a humanisé, on a repensé la psychiatrie, c'était un asile.
François Losquel.
François Tosquellas, oui, qui est...
Anarchiste espagnol.
Qui s'y est réfugié, au même titre que Paul Éluard, Zara, pendant la guerre. Et donc il y avait des fous. C'était à ce moment-là déjà depuis un certain temps un asile d'aliénés. Il était question de désaliéner les fous, d'ouvrir l'hôpital et de bricoler, d'inventer une psychiatrie complètement révolutionnaire. Et ça, moi, je connaissais Saint-Alban. Pour m'intéresser à la psychanalyse, parce que c'était ça qui était révolutionnaire aussi, c'était de faire entrer la psychanalyse dans l'hôpital psychiatrique, qui n'est pas du tout une évidence. La psychanalyse, c'est la névrose. Là, il s'agit de... Et d'autres choses. Et la concomitance géographique, enfin ce château qui rassemble ces deux histoires, moi qui aime le montage, et merci de m'avoir présentée aussi comme monteuse, c'était de l'or, quoi, enfin d'avoir...
Oui, parce que ce que vous montrez au début, c'est un récit officiel, qui est le récit du pouvoir. Ça y est, tout est réglé, tous les problèmes sont réglés. Et à partir de là, il y a une profusion de récits populaires qui s'emparent de ce qu'on sait être aujourd'hui une multitude de loups, mais qui vont faire la bête. Votre film fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que c'est une profusion de récits à l'intérieur qui est une résistance, puisque vous parliez de ce lieu, du château comme lieu de résistance, qui est une résistance aussi à la façon traditionnelle, normée, majoritaire de raconter des films.
Oui, mais je crois que c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'a beaucoup été dans l'histoire de la bête et après de cet hôpital, c'est que la bête, ça paraît évident maintenant, on se met à peu près d'accord sur cette idée qu'il n'y avait pas qu'une bête, mais plusieurs. plusieurs loups anthropophages, ce qui paraît évident quand on voit à quel endroit a attaqué à sévi la bête, à des endroits très très...
Oui, le don d'ubiquité de la bête. Et...
Voilà, on lui a prêté beaucoup, cette bête, mais c'est aussi le mythe. Enfin, évidemment qu'on a besoin du grand méchant loup, de la bête, et du côté de la folie, la psychose, le monstre, enfin de resserrer comme ça cette unicité, elle est rassurante, il n'y en a qu'une. On peut la combattre, alors que l'idée de la multiplicité, de la multitude, bah c'est ingouvernable, enfin c'est terrifiant. Et ça, je trouvais ça assez passionnant que cette idée soit venue très très tard, en fait, qu'on l'ait envisagée aussi tard. Et le film travaille cette question de la multitude aussi, parce qu'il y a des régimes d'images, de paroles très hétérogènes. Et aussi l'idée qu'il y a le peuple, enfin c'est ingouvernable, ça déborde, ça. Et la division interne. À l'intérieur, c'est aussi un peu le désordre.
Il y a une incarnation du peuple, il y en a beaucoup dans le film, mais il y a ce personnage extraordinaire qui s'appelle Bruno, fils de sorcière et frère de loup-garou, comme on l'appelle, une sorte d'ogre gentil, l'ami des enfants, mais qui parfois on se demande s'il ne les tue pas dans des moments perdus. Et c'est Raphaël Thierry qui l'incarne, qui était il y a quelques saisons assis sur le siège sur lequel vous êtes, Isabelle Prime. Il était venu nous parler de l'homme d'argile. Comment est-ce qu'il est né, ce personnage?
C'est le personnage qui fait justement couture en fait entre ces deux histoires, entre l'histoire de la bête et l'histoire, je ne sais pas si c'est l'histoire de cette psychothérapie institutionnelle ou de cet hôpital, mais en tout cas c'est un personnage ermite comme ça qui circule autour du château. À la fois, comme je l'ai écrit, c'est celui qui aurait fini par tuer la bête dans l'histoire de la bête du Gévaudan. Personnage qui s'appelle Jean Chastel, qui était redouté et aussi désiré. C'est un personnage, un villageois de Saint-Alban, qui aurait tué avec une balle bénite la vraie bête. Et aussi, il est complètement inspiré d'un patient, Auguste Forestier, très connu parce que Jean Dubuffet étant passé à Saint-Alban après la guerre, dans l'idée justement de... Voilà, ce qu'il a nommé l'art brut et l'idée de faire voir les créations, s'est intéressé au travail d'Auguste Forestier. Donc c'est ce personnage qui fait passage, qui est à la fois potentiellement vient de l'hôpital et vient de l'histoire de la bête. Et puis l'idée de la forêt, quoi, c'est l'endroit où on se perd, la forêt. Et le film se perd beaucoup dans cette forêt, avec des rappels à l'ordre, avec des enfants qui nous rappellent un peu l'histoire en chantant. Mais ce personnage de Bruno... Et une chose aussi très très importante, c'est qu'on est allé tourner chez Raphaël Thierry, qui joue Bruno, qui vit en Bourgogne. On n'est pas du tout allé tourner en Lozère, pour plein de raisons. Parce que l'hôpital n'est plus ce qu'il était, l'hôpital de Saint-Alban. Donc on a préféré délocaliser le film et d'aller vraiment au contact de... tout s'est fait autour de chez lui. Les bois qu'il arpente sont ses promenades quotidiennes. On a juste peuplé, en fait, ces bois, par la fiction, par... Mais il est central, ce personnage. Il parle pas, peu, mais on le suit. Et oui, il fait passage.
Alors, il y en a d'autres, en revanche, qui parlent beaucoup dans votre film, parce que c'est aussi un pur plaisir du jeu que ces loups.
Pourquoi t'applaudis, toi? Faut pas les encourager, hein. C'était pas bien du tout, hein. Ça convient pas du tout au sujet qu'on travaille, hein. Il n'y a pas du tout de recherche artistique. Vous jouez très mal. Ça n'a aucun sens. C'est très décevant. Le décor est nul. On voit que les arbres sont faux. Très mal peints. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de profondeur dans le travail. Si c'est comme ça, moi je retire mon nom du projet, je ne fais pas l'affiche. Moi, ça fait 10 semaines que je travaille l'affiche. Je fais multiples brouillons. Vous n'êtes pas vraiment engagé. Vous répétez une fois par semaine. On voit le résultat maintenant. Pas cohérent ce que vous faites.
C'est minable.
Moi, je vais aller en haut, me calmer, parce que je suis très mal à l'aise, très angoissée. Je serai dans mon dortoir et j'attends vos excuses les plus plates. Allez,
Mais non, ils sont très bien faits, les décors de votre film. Ils sont signés d'ailleurs Philippe Ken. C'est la merveilleuse Blandine Madec qu'on a entendu déplorer la piètre qualité du spectacle. J'ai toujours l'impression de voir en elle une réincarnation de la Thérèse d'Alain Cavalier.
Oui.
Puisqu'elle parle d'une Thérèse, elle a un côté comme ça, Catherine Mouchet, dans son visage. Jean-Claude Galota, vous avez vu Selou. Je ne sais pas comment ça se passe, les répétitions de vos spectacles, si de temps en temps une comédienne s'en va en déplorant la qualité du spectacle. Comment avez-vous vu ce film, Jean-Claude Galota?
Ah ouais, j'ai vu une originalité incroyable avec plein de choses qui me semblent proches. Et j'étais un peu comme le personnage, j'avais un œil du jour et un œil de la nuit. Et j'avais un œil du spectacle vivant et un œil du cinéma. Mais c'est vraiment une œuvre de cinéma, je trouve, à travers tout ce qui est énoncé entre le pouvoir, la politique, le peuple, la forêt, l'imaginaire justement de ce qu'on ne comprend pas, les fusils en branches.
Qui font tomber des arbres.
Voilà, exactement. C'est incroyable. Et une danseuse de claquettes qui vient... Alors, intéressant parce qu'elle commence dans le silence, puis après, elle est avec la musique. Donc là, on a vraiment l'envers du décor. Et puis, ce jeu dans l'hôpital et le théâtre, justement, ce rapprochement entre la folie, au fond. On dit qu'on est un peu fous, les artistes. Et là, il y a vraiment ce rapport immédiat. Il y a du blanc... Il y a du blanc à un moment donné, hein. C'est très beau. Ah, il y a une séquence magnifique, c'est quand les enfants courent dans la forêt. Ils se cachent. Et là, il y a un truc cinématographique magnifique, là. Formidable.
La belle prime.
Ça me fait très plaisir de vous entendre parler. Non, mais vraiment, j'étais ravie d'abord de savoir que... vous seriez présent. Il y a une étrangeté, je pense, dans cette forêt aussi, parce que c'est truqué. J'avais envie que ces enfants soient des apparitions, et donc c'est sur fond vert, donc il y a une sorte... On y croit sans y croire. Enfin, il y a une étrangeté que... Mais ça, le film essaye de travailler ça, cette artificialité-là, avec les animaux empaillés. Mais oui, moi, l'idée de ces enfants qui court-circuitent et en même temps qui tourne autour, là. Parce que ce qui m'intéressait beaucoup quand j'ai découvert l'histoire de cet hôpital, c'est que les enfants des soignants vivaient sur place, vivaient à Saint-Alban. Les soignants vivaient à Saint-Alban. Et donc, j'imaginais, c'est un peu fantasmé peut-être, qu'il y avait ces hordes d'enfants qui déboulaient dans l'hôpital et qui... Et voilà, et l'enfance, c'est quand même... entre la folie et la raison, c'est une ligne de partage assez fragile. Et puis moi, j'adore travailler avec des enfants.
Mais vous adorez travailler avec des acteurs aussi.
Ah bah oui, mais
actrices.
Là,
ça se sent. Comment est-ce qu'on demande, et en tout cas, comment est-ce que comme comédien, comédienne, on joue un fou?
C'était la question. Enfin, ça a été. Je me suis embarrassée de cette question beaucoup avant le tournage à la ménagerie avec les acteurs. Ce sont en effet des actrices et des acteurs qui jouent les fous. Et bêtement, j'avais peur qu'ils jouent la folie et qu'on. C'est ce que je leur ai dit qu'il fallait pas jouer avec l'idée qu'on en avait, mais. Mais on a fait les fous, en fait. On a fait les fous, et l'idée, c'est pour ça que le théâtre est aussi présent aussi, c'est de jouer un rôle, de déjouer un rôle. Enfin, la question de la représentation, le théâtre aide à conjurer cette peur que j'avais de jouer la folie, de la singer. Et puis, les fous n'ont pas le monopole de la folie du tout. Et je m'en suis rendu compte, les acteurs sont complètement fous, les gens qui font des films aussi.
Il faut trouver le fou en nous. Quoi.
Et quand même dire que les acteurs et actrices, je suis ravie qu'on ait entendu Blandine Madec. C'est la première fois, moi, que je travaille un film avec autant de plaisir en étant spectatrice de ce que j'étais en train de tourner. Ils sont magnifiques. Ils sont, voilà, le film leur doit.
Vous parliez d'enfants tout à l'heure, et il se trouve qu'il y a une scène dans le film où vous jouez une non-infirmière, et puis vous jouez de la flûte à un moment, je l'ai dit, que vous étiez pas mauvaise à la flûte, et vous jouez un air qui m'a un peu obnubilé, et tout d'un coup je me suis dit, mais nom de Dieu, il sort d'un film.
Ah bon?
C'est L'enfant sauvage de François Truffaut. Oh,
ça alors, eh ben j'ignorais. C'est le morceau de Vivaldi.
C'est le morceau de Vivaldi.
Ben voilà.
Et vous n'aviez pas du tout ça en tête, parce que c'est quand même assez connexe ce qu'on y entend.
Ben c'est magnifique. Mm-hmm. Je connais bien L'enfant sauvage pourtant, mais alors c'est pas du tout venu. Non, c'est. Ben merci.
Ben écoutez, non,
ça serait, ouais.
On va l'écouter.
Voilà.
Merci Isabelle Prime. Les loups, avec ou sans enfants sauvages, hein, ils étaient cachés quelque part.
Ils étaient là, ils étaient complètement
dans votre
là,
film.
Je vous remercie.
Ils sont en salle, les loups, depuis mercredi. Ils sont entrés dans Paris au 3 Luxembourg. Vous y débattrez mardi soir avec le critique Cyril Neyra, que vous retrouverez le 26 mars à la Baleine de Marseille, après avoir discuté de votre film le 19 mars avec la cinéaste et plasticienne Nora Martirossian. Ce sera au cinéma Utopia de Bordeaux, une vraie tournée de théâtre. Vous écoutez précisément France Culture Plan Large et ce sont d'autres bêtes de scène et d'écran qui sont en tournée en ce moment et font escale dans Plan Large. Ils sont 9, vêtus hommes et femmes de costumes noirs et chemises blanches, comme Marcello Mastroianni dans les années 50 ou les Reservoir Dogs de Quentin Tarantino aussi dans les années 90. Et qu'est-ce qu'ils dansent? Eh bien, ils dansent les souvenirs cinématographiques de leurs chorégraphes. Et dans vos souvenirs, Jean-Claude Galota, il y a cette fin de film qui est un bon début pour parler avec vous de cinéma.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse?
Vous allez nous le dire, Jean-Claude Galota, qu'est-ce que c'est dégueulasse? Quand nous vous avons demandé deux extraits de films pour cette discussion autour de votre spectacle, Cher Cinéma, vous nous avez en premier proposé La fin d'À bout de souffle. Je ne savais pas encore pourquoi, jusqu'à ce que je vois votre spectacle, où la mort subie de Michel Poicard dans le film se superpose à celle choisie de son créateur Jean-Luc Godard. C'est comme ça que ça s'est écrit, ce spectacle, où vous adressez, on va y revenir, à 12 cinéastes qui ont compté pour vous. On va les détailler tout à l'heure. Et vous racontez ce que chacun vous a appris. Mais ça se passe comme ça, c'est par des souvenirs qui font presque un montage, en fait, Jean-Claude Galota.
Oui, alors là, sur ce couple, ça m'a vraiment donné l'envie de faire un spectacle sur le couple. Justement, on passe de la vie à la mort. Et j'ai voulu raconter en quatre phases, parce qu'au Japon, le chiffre 4, c'est la mort. Donc j'étais allé au Japon. Et je me suis dit, il faut que je raconte quelque chose. Et j'ai fait ce spectacle sur les couples. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Luc Godard est venu voir ce spectacle. Du coup, on a parlé de ça. Et donc, ça m'est resté vraiment très fort. Et même si c'est un peu un classique maintenant, je trouve que c'est toujours beau de l'entendre. En plus, avec cette musique, Godard aimait la danse énormément. Et donc, il voulait presque faire danser chaque fois ses comédiens. Et là, il a trouvé quelque chose qui correspondait un peu à ce qu'il a voulu dire avec cette histoire de folie de mort.
On se dit, quand on voit courir Jean-Paul Belmondo, rue Campagne Première, longtemps, jusqu'au carrefour avec le boulevard Montparnasse, où il s'écroule, que c'est un moment de danse extraordinaire.
Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai mis dans Docteur Labus une course pendant longtemps. Et je sais que Jean-Luc Godard m'a dit, ah, il est formidable. Le danseur qui court, voilà, ça l'avait frappé. Et moi, c'était juste une introduction, en fait. Mais j'ai vu que dans son regard, il y avait quelque chose d'important sur le fait que la course et finalement la physicalité des corps, pour lui, c'était très important. Il avait une physicalité. Hein. Il était vraiment...
Mais il était très sportif.
Ouais, sans le vouloir, en plus, parce qu'il s'entraînait jamais. Mais il avait un truc...
Il faisait pas mal de tennis, quand même.
Ouais. Mais moi, quand je l'ai connu, il ne faisait plus rien, à part sauter de la voiture. Et c'était vraiment... Il voulait tourner un film sans dialogue, simplement avec de la danse et de la musique. C'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, sur la musique de Beethoven. C'était ça le projet. Et puis on n'a pas pu le faire.
Il reste quelque chose dans Nouvelle Vague, non, de votre...
Oui, exactement, exactement. Exactement. En fait, il avait des photos de Dr Labus, justement, et il montrait aux acteurs, et il essayait de faire en sorte qu'il joue ces photos-là, Alain Delon en train de se faire agripper par une jambe de femme. Voilà, c'était vraiment... ça lui était resté, en fait, ce moment.
Alors, votre spectacle raconte beaucoup de rencontres avec des cinéastes, là encore on va y revenir, mais il raconte d'abord une rencontre avec le cinéma. Et votre pièce commence par ces mots, on vous entend parler en voix off. Finalement, je n'aurais eu qu'une école, le cinéma. Qu'est-ce que concrètement vous y avez appris? Alors, je ne sais pas si vous en avez appris beaucoup comme homme, ou comme artiste, ou comme les deux évidemment.
Oui, oui, en fait, j'avais l'impression que le cinéma, il y avait tout. Il y avait le son, la musique, les paysages, les dialogues, la danse, on voyageait, les pays étrangers qu'on ne connaissait pas. Donc vraiment, ça me fascinait. J'avais vraiment l'impression d'être un enfant devant l'imaginaire et devant tous les contes du monde. Et j'avais l'impression de cette porte ouverte permanente. Et vraiment, ça me nourrissait, aussi bien sur la musique... Je voulais faire de la musique, et puis la danse, tout à coup, qui est apparue. Les corps différents, les corps étrangers. Et pour moi, d'ailleurs, j'ai commencé comme ça. Ne venant pas de la danse, j'ai essayé de mettre sur le plateau tout ce que j'avais appris au cinéma. Et c'est là qu'on a commencé à voir aussi des corps différents, des corps âgés ou des enfants.
Vous le dites que le cinéma avait beaucoup d'avance sur la danse pour ça.
Oui, exactement. C'était tout le néoréalisme italien. C'était vraiment pour moi une manne incroyable. Donc j'ai essayé de reproduire tout ça sur une scène, ce qui a donné justement cette différenciation qui a permis justement de la marginalité d'être reconnue dans la danse en fait.
Est-ce que vous avez essayé d'introduire sur scène également, il me semble, c'est un langage propre au cinéma, qui peut être des valeurs de plan, qui peut être des mouvements de caméra, des principes de montage. Là encore, comment est-ce qu'on applique ça au spectacle vivant?
Alors, moi, quand j'ai commencé dans les années 80, on n'avait pas le droit de parler dans les spectacles de danse. On devait même retenir son souffle. On ne devait pas entendre, et je comprends, hein, maintenant je m'en moque, mais je comprends, c'est éthéré, il faut vraiment faire rêver, donc il ne faut pas que ce soit réel, donc pas de souffle, pas de parole. Donc moi j'ai commencé à introduire des petits sons pour qu'on entende les danseurs, et puis après du dialogue. Alors maintenant, je dis ça, on le voit partout, hein, mais à l'époque c'était pas si facile de le faire, on se faisait critiquer de faire ça. Donc vraiment, pour moi, c'était important d'ouvrir le corps à toutes les expériences, sans provocation, hein, simplement pour le partager, en fait. Donc, voilà.
Et d'introduire aussi dans des spectacles de danse des gens qui ne sont pas danseurs.
Oui.
Et le film, vous voyez, je parle de votre pièce comme d'un film. On est dans une émission de cinéma. Ça commence par une rencontre ratée, mais formidable. C'est-à-dire, sur un spectacle qui ne se fera pas, vous voulez remonter votre spectacle phare, vraiment celui qui vous a fait connaître dans le monde entier, Ulysse. Et vous avez une drôle d'excellente idée, c'est d'aller chercher un certain Federico Fellini.
Eh oui. Ah, ça, c'est incroyable. Oui, parce que, à l'époque, je devais faire une reprise d'Ulysse à l'Opéra de Paris. Et le directeur me dit, mais il faudrait que tu mettes quelque chose en plus. Et donc, je disais, ah oui, peut-être je peux raconter un Ulysse qui serait pas revenu, qui serait un peu vieillissant. Ça ferait une belle première partie. Mais il faudrait vraiment quelqu'un de très connu, parce que il faut qu'il soit incarné, qu'on se dise, ah oui, on peut comprendre que c'est lui. Et, Le directeur me demande à qui tu penses, et moi, à la fois pour plaisanter et en même temps pour expliquer l'importance, je lui dis Marlon Brando. Il me dit, mais t'es fou, Marlon Brando. Non, mais bon, je dis comme ça, bah, tu vois, ou Fellini, tu vois. Et là, le directeur me dit, ah, Fellini, ça m'intéresse, parce que tous les directeurs d'opéra veulent que Fellini fasse une mise en scène d'opéra.
Ah oui, donc on va aller attraper ensemble. Fellini comme ça. Voilà.
Donc on va aller ensemble voir Fellini. Toi, tu lui parleras de ton projet de faire le Ulysse. Et moi, je lui demanderai de faire un opéra. Et nous voilà partis à Rome à voir Fellini. Incroyable. Bien sûr, il m'a fait devancer. J'ai expliqué mon projet. Et puis Fellini, malin, et il me fait « Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un d'autre que moi pour faire le rôle si jamais je ne peux pas ?» Et justement, pour faire le malin, je lui dis « Oui, à Marlon Brando. » Et il me regarde, il me dit « Ah, la gaffe !» Il faut jamais dire à quelqu'un qu'on a pensé à quelqu'un d'autre. Enfin, c'était une petite claque pour me dire « Ciao !» Voilà. Et le directeur essaye, et pareil, il écoute. Alors, c'était très solennel, comme ça, on écoute tout bien. Et puis, il dit « Ah, d'accord, d'accord. » Mais je crois que pour mettre un projecteur à gauche et un projecteur à droite, vous n'avez pas besoin de moi. C'est-à-dire que pour lui, les metteurs en scène d'opéra, ils étaient là juste pour le chanteur et le chef d'orchestre, et ils n'avaient rien à faire. Alors, on a pris deux claques tous les deux, et on est rentrés à Paris.
On apprend beaucoup en recevant des claques. En tout cas, cet Ulysse-là, avec Fellini, ne s'est pas fait. Mais vous en avez fait un autre au cinéma.
Tu me manques. Je veux pas que tu partes. Je veux rien qui t'arrive.
Je te manque parce que je travaille plus.
Viens, je vais voir une assistante sociale et j'ai un peu lui lécher le cul.
T'as pas intérêt à me faire ça.
Au pire, je prends un quatrième enfant et on vit sur moi.
Je veux pas être un salaire de complément. Je vais gagner autant qu'avant, mon amour. Un vrai salaire.
Combien?
15 000.
C'est dégueulasse.
Ouais. Je crois que si on veut que ça continue bien, nous deux, faut que je gagne au moins autant que toi. Autrement, on le fera moins bien ensemble. Et ça, c'est vraiment nul.
Ouais, mais moi, je gagne pas 15 000.
C'est pas vrai.
Les bébés, là, sur un an, ils me rapportent pas 15 000. C'est pas vrai. Si tu veux qu'on gagne vraiment pareil tous les deux, il faut pas gagner plus ni moins, ni plus ni moins.
Bon, 12 000, alors. Allez, 12 000, je reviens, je nous fous le feu.
12 000, c'est le nom précisément du film de Nadège Trébal en 2019. On s'amuse assez que 60 ans après, à bout de souffle, on y dise encore dégueulasse. C'est une odyssée moderne que ce film. C'est l'histoire d'un ouvrier qui survit le petit boulot et qui fait un long voyage pour trouver ces fameux 12 000, désespérant quelque peu sa Pénélope de compagne. Elle vous a dit, Nadège Trébal, si c'est précisément en raison de votre long compagnonnage avec Ulysse qu'elle vous a proposé de chorégraphier son film?
Ah, elle n'a pas dit ça, non, mais elle venait voir les spectacles, donc il y avait quelque chose, et elle voulait justement qu'il y ait de la danse pour son premier film. J'ai trouvé ça super de me demander. Ça, je pense à Isabelle aussi, parce que je me dis, tiens, c'est des jeunes femmes qui s'emparent des caméras, et elle voulait justement raconter quelque chose à la fois de politique et puis très poétique aussi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle cherchait une comédienne pour faire le rôle. Et quand on répétait, elle a vu comment ça se passait. Elle était toute excitée. Et moi, j'aime bien faire ça. Et je demande aux gens, ben, essaye, pourquoi t'essayes pas? Et elle s'est mise à essayer comme ça. Je dis, ben, c'est toi qui vas faire le rôle. Elle n'y a pas cru. Harry a dit, non, il ne faut pas, parce qu'elle est metteuse en scène. Donc, si elle joue, ça ne va pas aller, tout ça. Alors, on a eu une grande discussion. Et finalement, elle a fait le rôle et c'était formidable, extraordinaire. Donc à la fois, elle danse, elle joue, elle met en scène. Donc pour son premier film, chapeau.
Et elle le fait d'autant mieux que c'est un film très étrange, parce que ce n'est pas une comédie musicale, mais on y danse énormément. Je me souviens notamment de ces ballets de jeunes détrousseuses de containers dans la nuit. Comment est-ce que vous êtes rentré précisément dans ce film? Quelle discussion vous avez? Parce que tout d'un coup, c'est comme si la mise en scène échappait à la réalisatrice, puisque ça devient votre mise en scène.
Oui, en fait, elle était très précise en fait sur ce qu'elle voulait. Donc, moi, j'étais là vraiment pour lui donner les conseils, montrer les pas. Et moi, ça m'allait bien. C'est comme un puzzle, en fait. Et c'est elle. Elle avait le montage dans la tête. Donc, on s'introduisait. En plus, moi, ce qui m'intéressait, c'est de les faire danser en couple. Donc, de trouver quelque chose qui soit suspendu dans le film. Pas justement une comédie musicale, mais que ça soit le cinéma qui provoque la danse. Pour qu'on ait justement ce moment étonnant. Il fallait qu'on trouve l'étonnement. Et puis, toutes ces filles-là, c'était extraordinaire parce qu'elles jouaient avec ça. C'est à la fois la révolte. Il faut s'échapper. Et je trouvais ça intéressant que la danse montre ça. Que ce soit pas simplement une chose un peu gratuite ou légère, mais qu'il y ait aussi cette profondeur de révolte féminine dans le spectacle du cinéma.
Alors vous le dites, vous vouliez que le cinéma provoque la danse. Dans votre spectacle, c'est presque la danse qui provoque le cinéma, en tout cas qui l'invoque. Isabelle Prime, vous avez vu une captation, pas encore sur scène, je crois, du spectacle de Jean-Claude Galota. Qu'est-ce que ça vous a provoqué comme image? Parce qu'il faut le préciser, c'est un film encore, un spectacle sur le cinéma, mais on ne voit pas d'image de cinéma.
Mais on entend.
Voilà.
Voilà. Enfin, moi, je suis vraiment ravie d'avoir vu cette captation. Au début, Eddie, justement, de ce qui peut différencier le cinéma et la danse, bah, c'est le moment présent. Alors, ça, c'est une très belle évidence, c'est une très belle phrase qui a résonné tout au long de mon visionnage. Et à la fin, je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose, c'était extrêmement présent et les corps étaient d'autant plus présents qu'il y avait c'est ce qui m'intéresse moi beaucoup, ce récit. Parce que le récit, ça mobilise comme ça, c'est le passé, le récit. Et d'avoir ces corps, enfin l'instant qui presque qui s'émancipe du récit. Enfin, il y avait ces allers-retours. Moi, j'ai trouvé ça assez vertigineux d'avoir cet enregistrement et ces corps qui s'en débarrassent, mais voilà cette tension entre l'instant et le récit. Voilà, ça m'a particulièrement intéressée. Et puis, j'avais jamais vu, entendu ça. Voilà.
Jean-Claude Galota, vous les avez pensés comment, justement, ces chorégraphies, à partir des souvenirs que vous invoquez?
Oui, alors j'ai pensé à la voix off de Orson Welles à Truffaut. Alors je fais cette voix off modestement pour raconter mes souvenirs. Donc je me dis, ça peut être intéressant aussi pour le spectateur déjà. Et puis ensuite, ne pas faire une imitation, une caricature, mais d'inventer une danse pour chaque cinéaste. Donc c'est vraiment un moment original pour eux, spécifiquement, comme une prière pour eux. Et quand on a essayé de mettre des musiques de films ou des images, ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étonnant, et ça je l'ai appris aussi, c'est que pour parler du cinéma, en fait, faut pas mettre du cinéma. En fait, du coup, on met la voix, on met le corps, on met tout ce qu'il y a autour. C'est comme un parfum en fait de cinéma par les corps des danseurs qu'on essaye d'évoquer. Et bon, pour le tourner, enfin, je ne vais pas trop en dire, mais les spectateurs sont vraiment touchés en fait. Je ne pensais pas à ce point. Moi, je pensais que cette radicalité allait être compliquée. Justement, les gens au cinéma, ils vont attendre des images, etc. Et puis non, le fait d'avoir enlevé, finalement, ce manque de cinéma devient le cinéma.
Oui, parce qu'il y a une immédiateté qui provoque ces images. Alors, d'autant plus quand vous parlez de cinéastes avec qui, pour le coup, vous avez directement collaboré. Je parlais de Nadège Treban, mais il y a aussi ceux qui ont filmé votre danse, Claude Moreiras et Raoul Ruiz. J'ai d'ailleurs beaucoup pensé à Raoul Ruiz en voyant Les Loups d'Isabelle Prime.
Exactement.
Parce que je pense qu'il y a une même conception du temps, notamment du jeu et de
réalisme.
Et de la débrouillardise avec un petit budget. Et vous racontez notamment ce moment de Mamam, où Raoul Ruiz a brûlé tout le budget du film. Or, il en reste encore la moitié à faire. Et là, il a une idée de génie.
Oui, en fait, voilà, c'est ça. Il adorait bricoler. Donc, quand on a commencé, il m'a dit, oh, je connais pas bien la danse, mais on va s'amuser. Et donc, c'est vrai, il s'est mis tellement à découper, qu'il n'avait pas fini le film. Et du coup, il dit, on va faire un plan séquence. Donc on passe vraiment de quelque chose de très très monté à un plan séquence où il fait toute la fin du spectacle sur la plage du Havre, et c'était un moment incroyable, parce que du coup on se dit, voilà, un vrai cinéaste, il est à la fois quelqu'un qui peut inventer, bricoler tous les jours avec plein de choses. D'ailleurs il disait toujours ah, j'ai vu ma Mercedes, c'est-à-dire quand il savait plus dire, il disait ah, j'ai vu ma Mercedes, c'est-à-dire qu'il avait une vision. Et puis et tout à coup, au contraire, un plan de films d'auteur très radical comme ça, et je trouve que c'était vraiment sa façon à lui de parler, en fait, c'était son cinéma.
C'était sur la plage du Havre et c'était sur cette musique. La musique en question, c'est la valse des Caps d'Henri Torgue. Merci Jean-Claude Galota. Cher Cinéma est en tournée dans toute la France depuis sa création en novembre dernier au Théâtre de Caen. Il sera du 19 au 21 mars au 104 à Paris, les 6 et 7 mai au Antea à Antibes et du 3 au 6 juin dans votre ITAC, la MC2 de Grenoble. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec quelques-uns des films sortis et ressortis cette semaine.
How you will make it happen?
حبيبي وين اختفيت؟ قلقتني عليك.
آسف والله حياتي.
الشعر يقول سقط القناع عن القناع.
سقط القناع.
Black bag.
I would do anything for you.
Find the leak.
I like it.
搬丑啊
okay, 搬丑 okay, 搬丑
okay,
嗯，哎 ，Jose， 你赢了，你最丑，因为我没有搬丑啊。
This could be a big change in my life and some others or many others. I'm scared and I'm not sure if I could be responsible for that. But all I want to do is talk about the truth.
一，一，一，一，一，一。梁宝仪。
sur vos écrans depuis ce mercredi des réfugiés palestiniens qui, dans un Athènes clandestin et nocturne, tentent de trouver les moyens, même les plus illégaux, de rejoindre l'Allemagne. C'est le très bel et âpre Vers un pays inconnu, premier long métrage de fiction du documentaire Maddy Fleifel, qui a l'intelligence de ne pas angéliser ses personnages et d'explorer au contraire et sans jugement les ambiguïtés morales dans lesquelles ils se débattent. À l'extrême inverse des personnages de papier qui s'ébrouent mollement dans une intrigue d'espionnage qui recèle pourtant de savoureux moments, dont une anthologique scène de dîner sans filtre entre amis, si l'on peut dire, c'est The Insider de Steven Soderbergh ou L'art de filmer du rien, son grand projet depuis ses débuts, si on en croit le premier livre en France consacré au cinéaste Steven Soderbergh, volume 1, Les années analogiques, de Christophe Chabert et Frédéric Mercier, un livre tout juste paru chez Marest Éditeur et qu'on a préféré au film. Des immigrés chinoises dans un salon de massage new-yorkais, c'est l'étrange, vaporeux et même fantomatique Blue Sun Palace, premier film de la sino-américaine Constance Tsang, qui vaut surtout pour l'autre regard qu'elle porte sur le merveilleux Li Kangsheng, qu'on a plutôt l'habitude de voir filmé par le non moins merveilleux Tsai Ming-liang. Un thriller journalistique où l'enquête d'une journaliste japonaise sur le déni par la justice du viol qu'elle a subi prend la forme d'un bouleversant journal intime, c'est le documentaire Black Box Diaries, dont son autrice Shirio Ito était venue nous parler la semaine dernière. Et puis côté réédition, pour rester en Asie et se faire une idée du bouleversement formel que fut l'apparition de la nouvelle vague du cinéma hongkongais au tournant des années 70 et 80, trois fleurons du genre sont ressortis en salle. Ce sont Les Boat People et Love in a Fallen City d'Anne Hui et Women de Stanley Kwan. Et puis enfin, ressurgit de la répression du printemps de Prague qui avait fait interdire le film en 1970 avant sa réapparition 20 ans plus tard en compétition au Festival de Cannes, c'est Ucho de Karel Kachina, étrange comédie horrifique du remariage sur la paranoïa d'un couple d'apparatchiks du régime. Nous reste encore à vous annoncer le lancement des prix cinéma des étudiants France Culture QV 2025. 8 films ont été sélectionnés, dont bon nombre de leurs auteurs et autrices ont été reçus ici. Ce sont Miséricorde d'Alain Guiraudy, September and July d'Ariane Labède, Flow de Gins Zilbalodis, Et à limite de Nicolas Peduzzi, Dahomey de Mati Diop, Northern de Basal Adra, Hamdan Balal, Rachel Sor et Yuval Abraham, et puis en coup de cœur Acide France Culture, Château Rouge d'Hélène Milano et Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque. Étudiantes et étudiants qui nous écoutez pour faire partie du jury, voir ces 8 films, en débattre avec leurs cinéastes et voter pour vos préférés, vous avez jusqu'au 30 mars minuit pour candidater sur le site de France Culture. Enfin, pour voir les premiers pas du grand vainqueur des derniers Oscars avec son réjouissant Anora, je les avais évoqués ici lors de leur sortie en salle, les 4 premiers et inédits longs métrages de Sean Baker, Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway et Starlet viennent de sortir en coffret DVD et Blu-ray. Ça s'appelle Sean Baker, Les Oubliés de l'Amérique et c'est chez The Jokers. Et puis on va savoir plus évidemment sur Anora. Sean Baker et son interprète Mikey Madison étaient venus en parler dans Plan Large. C'était le 2 novembre 2024 à vos podcasts. Ceci annoncé, il est l'heure d'un autre type d'interview. Surtout, ne clignez pas des yeux.
Starting now, we are not to blink. If you blink, we go back to the start. Infringement. You blinked. Starting now, we are not to blink. If you blink, we go back to the start. Do you often think about how inconsequential you are?
No.
Do you believe that God will save you from your own ridiculousness?
No.
Have you ever had intercourse with someone inside your family?
Yes.
Have you ever had intercourse with someone inside your family?
Yes.
Who?
My auntie.
Have you killed anyone?
No.
Maybe?
Not me.
Have you killed anyone?
No.
How many times did you have intercourse with your aunt?
3 times.
Where's your aunt now?
I don't know.
Would you like to have intercourse with her again?
No.
Do you regret this?
No.
Where's your mother?
I don't know, Moody.
Infringement. Back to the start.
Okay.
Un gourou manipulateur qui passe en boucle la question à un marin traumatisé alcoolique et obsédé sexuel pour voir s'il l'accepte dans ses rangs, c'était Philip Seymour Hoffman face à Joaquin Phoenix. et c'était en 2012 dans The Master de Paul Thomas Anderson. Joaquin Phoenix, son regard troublé, troublant, ses boyaux tordus et son angoisse sourde sont au cœur du nouvel opus de la collection Capricci Stories, des courtes et romancées biographies d'actrices et d'acteurs par des critiques de cinéma. Alors ça s'appelle précisément Joaquin Phoenix, l'angoisse est un métier. C'est signé du rédacteur des cahiers du cinéma Yael Sadat. Ça commence par On s'emmerde et ça se conclut par De grâce, un peu de décence. Et peut-être que tout Joaquin Phoenix est sans doute quelque part entre les deux dans cette béance-là, Sandra Onana.
C'est un acteur hyper difficile à attraper, ce Joaquin Phoenix. Et donc, c'est intéressant de chercher à le cerner avec des mots, trouver comment qualifier cette présence un peu oblique dans le cinéma américain. Alors, le fil que tire le critique Yael Sadat ici, effectivement, c'est celui de l'angoissé existentiel. Il développe l'idée d'un acteur qui est encombré de lui-même, en fait, qui va jouer corporellement avec son malaise, avec ses complexes à l'écran. Pas forcément par choix, mais parce qu'il n'arrive pas à les cacher. Si bien que Joaquin Phoenix ne s'est jamais vraiment installé, par exemple, dans les films comme un sex-symbole hollywoodien. Il dégage un truc trop louche pour ça. Et ça, ça n'a pas échappé à l'un des personnages les plus incarnés du bouquin. C'est son ami James Gray, avec qui il a tourné 4 films en tout. James Gray qui aurait vu chez lui dès la première heure ce qui manquait au reste des acteurs qui auditionnaient pour le rôle du gangster dans The Yard. À savoir, et je cite le livre, un visage qui pense et sous lequel on devine qu'il le veuille ou non, le conflit intérieur qui crépite en dessous. Comme si le désordre derrière, en fait, pouvait se voir à l'œil nu. Alors, il y a une originalité dans le livre, elle vient de la narration. Les sources ne sont pas citées, mais on devine bien qu'il s'agit d'interviews, d'archives, tout ce qu'il y a de plus classique dans la biographie. En revanche, le point de vue adopté, ressemble à celui qu'on peut trouver dans un roman. C'est celui du narrateur omniscient qui va prélever une poignée d'anecdotes dans la vie de Phoenix, dans un style plutôt littéraire, et parfois en allant se glisser dans le point de vue de personnages, de son agent, de ses partenaires de jeu, ou même d'une photographe de plateau sur le tournage des Frères Sisters de Jacques Audiard, tournage où visiblement l'acteur n'adressait la parole à personne à part elle. Et là, on peut supposer par exemple que c'est un témoignage recueilli de première main qui vient de la photographe elle-même. Alors, tout le monde ne savait peut-être pas que Joaquin Phoenix a grandi dans le giron d'une secte, les Enfants de Dieu, auprès de parents hippies qui voulaient élever une fratrie d'enfants stars de la télé. Peu de gens ignorent par contre que le grand frère River Phoenix est mort d'une overdose en 93 et qu'en plus d'être l'un des espoirs du cinéma américain, à ce moment-là, c'était un peu l'astre de la famille, au point que sa mort a créé un passage de relais un peu maudit pour le jeune Joaquin qui a construit sa carrière un peu comme en négatif de celle du frère disparu. Tout ça en étant présenté médiatiquement comme ce vilain petit canard, un peu bouboule, un peu inquiétant, avec sa marque de naissance qui lui fait comme un bec de lièvre. Alors le baptême symbolique que retient le livre dans sa carrière d'adulte, c'est ce rôle d'ado en rut dans Prêt-à-tout de Gus Van Sant face à Nicole Kidman. Après quoi, les propositions de rôle l'imaginent toujours du côté d'une libido mal dégrossie, de personnages inadaptés qui lui collent un peu à la peau. On peut citer dans le désordre le clown sociopathe de Joker, le veuf asocial qui tombe amoureux d'une IA dans Her. Il y a évidemment Johnny Cash dans Walk the Line et puis le vieux garçon suicidaire dans Two Lovers. Ou encore, et c'est la plus belle synthèse de l'homme comme de l'œuvre, sans doute, ce rôle de pauvre bougre alcoolique, sexuellement instable pour Paul Thomas Anderson, dans The Master, où il tombe justement sous l'emprise du gourou de la scientologie. Et c'est pas dit qu'il ait jamais fait mieux que cette tambouille-là, ce rôle-là. Bon, en fait, c'est l'objet d'études parfaites si on trouve que le mythe de l'acteur rockstar torturé opère encore, c'est-à-dire l'interprète qui jouerait avec ses démons, notamment son alcoolisme, en s'inspirant de la méthode d'immersion dans les personnages associés à l'acteur studio. Tout ça en donnant l'impression de subir les transformations corporelles plus qu'il ne les entreprend délibérément. Alors, il y a quand même une opération qui est faite dans le livre qui nous soutire un peu de force, c'est d'arriver à le rendre un peu sympathique, ce qui n'est pas gagné d'avance, tout simplement parce que c'est sympathique, un acteur qui angoisse, faut bien le dire, ça le rend proche de nous. Ça fait qu'on lui excuse ses coups d'éclat un peu pathétiques que le livre considère quasiment comme une extension de l'œuvre, en fait. Telle apparition télé où il apparaît ivre-mort, telle qu'elle est racontée par Yael Sadat, ça paraît prolonger le geste de la filmographie. Pareil pour le canular imaginé avec Casey Affleck pour son documentaire parodique I'm Still Here, où Joaquin Phoenix prétend se lancer dans le hip-hop, interrompre sa carrière et il s'amuse, je cite le livre, à faire un doigt d'honneur à sa propre image. Et puis, très dernièrement, on n'irait pas jusqu'à trouver charmant quand même qu'il ait planté le projet de film de Todd Haynes 5 jours avant le tournage, dont il était pourtant à l'initiative et qui survivra sûrement pas à son départ. Même si la réponse qu'il a donnée pour s'en justifier, « J'ai eu la frousse », ne dément pas le portrait qui est fait de lui dans le bouquin. Bon, à l'arrivée, on est quand même tenté d'aller revoir ses films, ses grands rôles avec lesquels Joaquin Phoenix a su donner une forme à cette fameuse frousse, cette angoisse existentielle dont le livre nous explique qu'il s'agit bel et bien d'un métier, et qu'en la matière, pour le coup, il se débrouille en effet pas trop mal. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that bind. Because you're mine, I walk the line. Find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Merci Sandra Onana, Joaquin Phoenix, L'angoisse est un métier de Yael Sadat, c'est chez Capricci dans la collection Stories. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel et Alexandre Fougeron.